France Inter, il est 7h30, soyez les bienvenus. Pour le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Peut-être une alternative au glyphosate. Des scientifiques du CNRS découvrent un herbicide d'origine naturelle dans la mousse. Un dispositif policier d'une ampleur exceptionnelle à Paris. Pour ce 1er mai, les autorités annoncent la venue de 1000 à 2000 activistes radicaux. Contrôle préventif dans les gares, les péages. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido appelle la population et l'armée à se soulever pour renverser le président Nicolas Maduro. Des dizaines de blessés hier. En finir avec le tourisme de masse à Venise. À partir d'aujourd'hui, il faut payer pour entrer dans la ville. Et puis Ayrton Senna, un homme devenu un mythe, une légende qui perdure au Brésil.
Dans 20 minutes à 7h50, l'invité de Karine Bécard est, je vous le rappelle, la reporter de guerre Martine Laroche-Joubert. Elle publie Une femme au front, mémoire d'une journaliste de guerre. C'est aux éditions du Cherche Midi.
France Inter.
Allons-nous bientôt, Laurence, pouvoir nous passer du glyphosate, cet herbicide décrié potentiellement cancérogène?
Et des scientifiques viennent de découvrir d'incroyables propriétés désherbantes chez une molécule naturelle qui se trouve dans la mousse végétale. Elle aurait quasiment le même effet que le glyphosate. Les recherches n'en sont qu'au début, mais l'alternative découverte par des chercheurs du CNRS est très sérieuse, Lisa Guyenne.
Son nom, la radulanine, une molécule produite par des mousses qu'on retrouve dans les forêts notamment. Les chercheurs l'ont testé sur l'arabette, une mauvaise herbe très répandue, avec un résultat plus que probant, explique Bastien Naye, directeur de recherche au CNRS.
On a montré que nos molécules étaient actives à des concentrations qui sont très proches de celles du glyphosate. Donc c'est pour ça que ça nous a quand même assez interpellés. On est presque aussi efficace que le glyphosate.
À cela près que la radulanine, elle, est naturelle. Et alors que les désherbants chimiques sont interdits de vente aux particuliers depuis le 1er janvier, cette alternative ouvre de nombreuses possibilités.
Je pense qu'il y a une pression effectivement de la société qui fait qu'il y a des choses qui sont de moins en moins possibles. Donc effectivement, là, il y a plein d'ouvertures grâce à l'origine naturelle de ces produits.
Pour autant, d'ici à retrouver la radulanine dans le commerce, il faudra au moins plusieurs années. Rivaliser avec le glyphosate n'est pas une mince affaire.
C'est extrêmement difficile parce que le glyphosate, c'est une molécule très simple, très facile à synthétiser, qui est disponible en très grande quantité et à moindre coût. Donc si on veut rivaliser avec des molécules comme ça, il faut encore travailler pour améliorer nos moyens de production.
Reste aussi la question sanitaire, bien sûr. Il faudra encore évaluer les effets de la molécule sur l'homme et sur l'environnement.
Lisa Guyenne, un 1er mai sous tension, manifestations syndicales et gilets jaunes sont prévus un peu partout en France pour cette fête du travail qui risque une fois de plus d'être gâchée par des activistes radicaux. Ils promettent une journée d'apocalypse que l'exécutif espère éviter avec un sérieux dispositif sécuritaire. Tous les projecteurs sont tournés vers la capitale où l'an dernier déjà, la manifestation avait dégénéré. Plus de 7400 policiers et gendarmes, des drones seront déployés pour sécuriser les cortèges. Beaucoup redoutent la venue des Black Blocs, prêts à en découdre avec les forces de l'ordre et à attaquer les symboles de la République ou du grand capital. Le principal cortège intersyndical, CGT, Solidaire, FO, FSU, ainsi que les syndicats étudiants et lycéens UNEF et UNL partira à 14h30 de Montparnasse pour rejoindre la place d'Italie. Leur service d'ordre s'attendent à une journée très mouvementée, Rémi Brancato.
Officiellement, pour la CGT, c'est un service d'ordre classique qui est déployé aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet, nous dit un responsable en Ile-de-France. Mais hors micro, il confie quand même avoir rameuté des renforts parmi les militants. Un membre de ce service d'ordre nous assure même qu'ils étaient 100 à 150 l'an passé et qu'il en espère deux fois plus aujourd'hui. Il faut dire que le Black Bloc s'annonce fourni et certains de ses membres s'en sont déjà pris au service d'ordre de la CGT lors des manifestations contre la loi travail. L'an passé, le cortège syndical a dû changer de parcours à l'improviste, bloqué par les affrontements avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, les syndicats espèrent bien arriver jusqu'à la place d'Italie, mais les activistes radicaux, ce n'est pas la seule inquiétude. En tout cas pas pour Solidaire, qui compte une cinquantaine de militants dans le service de protection. Frédéric Bobin fait partie des coordinateurs.
Notre rôle, nous, c'est de protéger les manifestants, et on n'est pas forcément super serein de ce côté-là, non pas vis-à-vis des Black Blocs, mais vis-à-vis d'une attitude policière depuis ces dernières semaines sur les manifestations qui nous inquiète un peu. Ces dernières manifestations, des gens qui étaient tous sauf des Black Blocs, qui ont été mutilés, qui ont été gazés en crainte pour les manifestants, plus que pour les vitrines.
Et plusieurs syndicalistes assurent que le préfet de police leur a demandé une collaboration pendant la manifestation. Les services d'ordre ont refusé. Le ministre de l'Intérieur a répondu hier, lui, ne leur avoir donné aucune consigne.
Rémi Brancato, ajoutons qu'en province, plusieurs préfectures ont annoncé des interdictions de défiler dans le centre-ville, comme à Caen ou à Lyon. Et puis sur franceinter.fr, on vous explique en détail la stratégie du ministère de l'Intérieur mise en place à Paris et dans les grandes villes de France.
7h35 au chapitre politique. La journée du 1er mai est traditionnellement, Laurent, célébrée par le clan Le Pen.
Depuis 1988, il se retrouve autour de Jeanne d'Arc le jour de la fête du travail. Jean-Marie Le Pen, lui, sera à 11h30 fidèle à la tradition au pied de la statue dorée de la place des Pyramides à Paris, pendant que sa fille déposera, elle, une gerbe de fleurs devant la Jeanne d'Arc de Montigny-lès-Metz avant un meeting au parc des expositions. Ce sera pour la patronne du Rassemblement national le seul grand rendez-vous en France de cette campagne des européennes qui pourrait bien passer inaperçue si Paris venait à s'embraser. Conséquence dans les rangs du RN, frustration et déception, Maxence Lambrec.
Après avoir surfé sur le mouvement des Gilets jaunes pendant des mois, les équipes de Marine Le Pen commencent à en avoir marre de ce feuilleton qui prend le dessus sur la campagne des européennes et risque aujourd'hui de faire oublier leur grand-messe. Que voulez-vous ? On ne fait que subir l'actualité, déplore un proche de Marine Le Pen, et ils en ont encore fait l'expérience il y a 15 jours au moment de la présentation de leur projet européen à Strasbourg, Notre-Dame brûlée à Paris. Tout à l'heure, devant un millier de militants, entre un suprême de volaille et une mousse au chocolat, des tables rondes sur des questions de défense, d'écologie, d'économie, avant les discours de Jordan Bardella et Marine Le Pen, lui contre Macron, elle contre Bruxelles. Ce devait être le top départ de la dernière ligne droite de cette campagne, mais cela risque d'être perçu comme un meeting de plus, décalé de l'actualité parisienne. Alors Marine Le Pen se console avec une date, le samedi 18 mai, à une semaine du scrutin, elle retrouvera en Italie, sur la plus grande place de Milan, son ami et ministre Matteo Salvini pour une démonstration de force des leaders nationalistes.
À l'étranger, une fête du travail très politique au Venezuela. Le chef de file de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, appelle la population et l'armée à se soulever contre le président Nicolas Maduro. La journée d'hier aura été marquée par la défection de dizaines de soldats, mais rien n'indique pour l'heure que les généraux de l'armée ont changé d'allégeance. Des heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants ont fait plusieurs dizaines de blessés, puis on apprend que le président vénézuélien était prêt à s'envoler hier matin pour Cuba, avant d'en être dissuadé par la Russie. Son avion était sur le tarmac, prêt à décoller. Nicolas Maduro voulait trouver refuge à La Havane, mais les Russes lui ont dit de rester, selon le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Un peu plus tôt, Donald Trump avait demandé à Cuba de cesser son soutien militaire au régime de Maduro, sous peine d'instaurer un embargo total sur l'île. Nicolas Maduro qui dément avoir voulu fuir le pays. Aux États-Unis, 2 morts, 4 blessés, dont 2 grièvement lors d'une fusillade hier après-midi sur le campus de l'université de Charlotte en Caroline du Nord. Le suspect interpellé est un étudiant de 22 ans qui a abandonné les études qu'il suivait dans cette université. Le marché des smartphones, toujours dominé par le sud-coréen Samsung, mais au premier trimestre 2019, le chinois Huawei repasse devant Apple pour la 2e marche du podium. Dans un contexte de marché mondial des smartphones saturé dans les pays riches, le chinois est parvenu à augmenter ses ventes de 50% et il réduit l'écart avec Samsung.
Il est 7h38. Comme pour un musée, Laurence, il faut désormais payer pour entrer à Venise.
La cité des Doges impose à partir d'aujourd'hui une taxe d'entrée. Les autorités souhaitent ainsi sauver leur ville du tourisme de masse. La correspondance d'Antonino Gallofaro.
Je préfère avoir moins d'argent, mais des touristes plus éduqués. Le maire de Venise connaît les risques qu'engendre une nouvelle taxe, mais il n'en peut plus de l'irrespect des visiteurs, comme ceux-ci qui se baignent dans les canaux à la place des gondoles ou ceux-là qui laissent leurs déchets place Saint-Marc. Alors dès aujourd'hui, chaque touriste, italien comme étranger, devra payer 3 euros pour entrer dans la ville. Le maire de la Sérénissime veut que cette nouvelle mesure soit discrète, alors il l'introduit doucement. Elle passera à régime normal dès 2020 à 6 euros et sera de 8 ou 10 euros selon les périodes d'affluence, comme lors du carnaval par exemple. Les habitants, les étudiants et les travailleurs en seront bien sûr dispensés, comme les enfants de moins de 6 ans ou les personnes handicapées notamment. Cette mesure répond au tourisme de masse dont est victime Venise, surtout celui des croisières, ces touristes qui ne restent dans la ville qu'une journée et ne payent ainsi pas la taxe de séjour. Selon les derniers chiffres, le centre historique a accueilli en 2017 près de 8 millions de personnes, alors qu'il ne compte que 54 000 habitants. Pour les autorités vénitiennes, les coûts de gestion et de nettoyage dus au tourisme sont aujourd'hui bien trop élevés. Rome, Anthony Nogalo, Faro, France Inter.
L'été approche, c'est le temps pour certains jeunes de rechercher un job saisonnier. En quelques clics avec son smartphone, c'est possible. Pas besoin de lettres de motivation ou d'entretien. Une start-up, StaffMe, créée par un ancien avocat et un jeune diplômé de l'ESSEC, ont lancé cette plateforme il y a presque 3 ans maintenant. 80 000 utilisateurs entre 18 et 30 ans un peu partout en France. Du côté des entreprises, c'est surtout le secteur de la vente qui a recours à ces services. Inès Lombarté est allée voir comment fonctionne ses jobs d'étudiant.
L'an dernier, Julien cherche un travail pour l'été. Il arpente les commerces de son quartier, CV à la main. Personne ne lui propose de contrat. Solution de repli, il s'inscrit sur StaffMe, un site qui permet de trouver des petits boulots selon ses envies et ses disponibilités.
Je vendais des bouchons d'oreilles devant des salles de concert pendant tout l'été. Sur le principe, c'est la même chose qu'une boîte d'intérim, au bout du compte avec plus de souplesse.
Julien touche un peu plus de 11 euros de l'heure. Les missions sont envoyées par texto à plusieurs jeunes. Le premier qui répond est le premier servi. Peu importe leur CV ou leur origine, pour Jean-Baptiste Achard, l'un des créateurs, ce système met les travailleurs sur un pied d'égalité.
Ce sont des personnes qui n'avaient pas ou très difficilement accès à ce type de job parce que les barrières à l'entrée étaient importantes de par la discrimination. On rend un vrai service à ces jeunes en leur permettant de répondre à leur premier besoin, qui est le besoin financier, donc de gagner de l'argent très facilement et très rapidement. Ce qui pour moi est tout le contraire de la précarisation. C'est justement la possibilité de revaloriser le travail et en plus de gagner en expérience.
Le statut d'auto-entrepreneur est exigé pour utiliser ce type de plateforme. Il protège moins les étudiants, pas de cotisation chômage ni retraite notamment. Un avantage pour les entreprises qui n'ont pas à payer de charges sociales.
Inès Lombarté, son casque Ori Verde, reconnaissable entre mille, son génie sur les pistes de Formule 1 et ses victoires. Le Brésil rend hommage ce 1er mai à Ayrton Senna, mort tragiquement il y a 25 ans sur le circuit d'Imola en Italie devant des millions de téléspectateurs. Un quart de siècle plus tard, c'est bien sûr au Brésil que son souvenir demeure le plus vivace à Nvinia.
Évoquez Ayrton Senna avec un Brésilien et il vous répondra certainement comme Isaac qu'il reste aujourd'hui le meilleur pilote.
Ayrton Senna a toujours été mon idole parce qu'il arrivait à battre sans cesse ses propres records. Et aujourd'hui, avec des voitures bien plus modernes, beaucoup n'arrivent pas à surpasser les records qu'il avait obtenus à l'époque, il y a plus de 25 ans. Donc je crois que son souvenir sera éternel. D'autres peuvent être connus, mais lui ne sera jamais oublié.
Même les Brésiliennes comme Victoria ont vu ses courses et se souviennent de ses exploits techniques.
Il a vraiment été un excellent représentant pour le Brésil à l'époque, quand il a gagné au Japon comme au Brésil, avec cette manière incroyable d'utiliser la sixième vitesse, ce qui est très difficile. Je crois qu'il a marqué le Brésil grâce à ça et qu'on connaît bien la Formule 1 grâce à lui.
A gente tem uma visão muito grande no Fórmula 1 por conta dele, né?
Ayrton Senna reste le plus grand sportif de l'histoire brésilienne, comme on le décrit dans son pays. Un titre que personne ne lui a volé 25 ans après sa disparition. Rio de Janeiro, Anvinha, France Inter.
Et on retrouve Nicolas Demorand.
Merci Laurence Thomas.